hétéronormativité et crotte de nez.
Hétéronormativité et crotte de nez.
Sérieux.
Franchement, tu vois une émission qui s'appelle Hétéronormativité et crotte de nez, tu cliques, tu y vas.
Si c'est en 3 épisodes, ouais.
De 20 minutes, c'est pas long.
Ça va.
Un bal patriarcat, la transphobie d'État, la famille bourgeoise hétéro, la lesbophobie, le racisme, nous ne voulons pas ça.
Transgresser l'hétéronormativité en situation d'enseignement.
L'hétéropatriarcat, c'est caca.
Frotter, il faut payer. Qui sauvera l'enfant queer ? Le plan B ?
Hétéronormativité
et crotte de nez.
Et crotte de nez.
Bonjour, nous sommes Flora,
Violette,
Céline,
Claudia,
Mathilde,
Béné,
6 meufs, Gwyn, lesbiennes, principalement blanches, mères et non-mères, intervenant à l'école, au lycée, à la fac, dans des associations d'éducation populaire, avec des adultes.
Nous nous sommes retrouvés en août 2019 aux 7e rencontres de pédagogie féministe qui avait lieu cette année-là à Saint-Julien-Molin-Molette, dans la Loire. On a le point commun d'être féministe et en situation de transmission ou d'animation avec différents groupes de personnes de tous âges. Ce triptyque radiophonique prolonge les échanges entamés lors d'un atelier sur l'hétéronormativité. Dans ce premier épisode, nous aborderons l'hétéronorme en action. Comment et où elle s'exerce dans nos existences ? Comment nos vies intimes et professionnelles sont traversées par l'hétéronormativité ? Comment cette norme invisible et néanmoins omniprésente s'immisce un peu partout dans nos existences, nous aliène et nous conditionne à la suivre ? Alors, on peut commencer par évoquer peut-être des petites situations dans lesquelles on a été soumise à l'hétéronorme dans nos différents cadres de pratiques professionnelles. Est-ce que quelqu'une veut raconter une histoire ? Une petite situation ?
Moi, je crois que l'hétéronorme, elle s'exerce quand... Enfin, je l'entends comme quand on invisibilise d'autres formes de sexualité possibles, d'avoir ou pas de la sexualité, déjà, de partager sa vie ou pas avec quelqu'un, et qu'elle s'impose comme le seul modèle, quoi. Et du coup, moi, ça va être des moments où on va parler des homos comme si c'était des autres qui sont... forcément pas dans cette pièce, que ce soit avec des jeunes ou avec des adultes, comme si personne n'était concerné et que c'est être hétéro par défaut, quoi. Et moi, en tant que lesbienne, du coup, il y a plein de fois où soit je relève pas, soit j'essaye de poser des questions qui vont permettre d'ouvrir, mais en tout cas, c'est ça, pour moi, la force un peu de l'hétéronorme, c'est que c'est forcément là, tout le temps, quoi.
Quand on préparait, on a aussi pas mal parlé de situations où le fait que ça soit une norme, le fait d'être hétéro et donc d'avoir une vie de couple et donc d'être prise dans une activité reproductive, donc d'être mariée plutôt avec un homme et d'avoir des enfants, et ben en fait ça empêche de relationner parce que c'est toujours ce qui est proposé dans les discussions un peu simples quoi, avec des gens qu'on rencontre. Et on a pas mal parlé de la machine à café. Et donc ça peut être avec des collègues qu'on a tout le temps, mais je pense que c'était surtout fort avec des gens qu'on rencontre et qu'on connaît pas, et donc notamment avec d'autres femmes avec qui on va faire une intervention, qu'on va voir plusieurs fois, et où en fait, entre les moments où on va faire l'intervention, il va y avoir des petites discussions pour essayer de se rencontrer, et c'est beaucoup autour des enfants, est-ce que t'as un copain, est-ce que tu dragues, nanana, les mecs qui sont là, tu connais machin, il est mignon et tout ça, et comment on se positionne par rapport à ça quand on a quand même envie de les rencontrer, quand on a quand même envie de faire du lien, mais qu'on n'a pas envie de jouer le jeu de l'hétéronorme, et surtout quand on est gouine et puis qu'on est célibataire, voilà, de quoi on parle, quoi, comment on fait le lien. Ça aussi, ça me semble que c'est une forme d'hétéronormativité, c'est ce qui est disponible, quoi, c'est ce qui est là tout le temps.
Oui, et puis c'est ce sentiment de pas être aussi bien que les autres quand on n'est pas... Quand on n'est pas avec le schéma typique papa, maman, les enfants. Et tu parlais des enfants, justement, et ça peut être aussi, à l'inverse, moi, c'est difficile. Quand je dis que j'ai deux enfants, ce qui induit, c'est que j'ai une vie hétéronormée, que je vis avec un homme ou... Et du coup, j'ai l'impression que je dois dire « Mais en fait, je suis pas hétéro. » Et du coup, j'ai pas forcément envie de dire « en fait, je sais pas qui je suis » ou « en fait, je suis lesbienne, mais depuis pas longtemps, enfin, voilà. » Mais en même temps, c'est intégrer que si je dis que j'ai des enfants, eh ben, on me plaque un schéma de vie dans lequel, dans lequel je me reconnais pas ou plus. Et ça, c'est compliqué parce que c'est invisible, en fait. Voilà comment je vois ça.
Moi, ce que ça m'évoquait aussi dans les échanges, c'était la question du couple et que en fait, comment on fait exister ça quand on est traversé par des histoires avec d'autres meufs, enfin voilà, que on n'est pas hétéra par défaut, mais que pour autant, on n'a pas de relation de couple et du coup, dans quelle mesure, on peut plus difficilement, j'ai l'impression, placer des trucs du type « oui, avec ma copine ce week-end », enfin voilà, et du coup, comment on peut s'assumer dans ce type de discussion type machine à café, voilà, sur parler, faire exister aussi notre identité propre alors même qu'elle n'est pas présente dans notre quotidien au travers de relations desquelles on pourrait parler, quoi.
En tout cas, d'une relation de couple qui est plus facilement affichable que de multiples relations, par exemple.
Ouais.
Il y a aussi la question de comment exister dans un espace de travail ou relationnel quand on n'a pas, en fait, de relation, d'espace affectif dit comme tel, et qu'on n'a pas non plus envie qu'on nous plaque... des schémas hétéros ou même homo, en fait, enfin, qu'on a envie d'exister par soi-même, en fait, pas par l'idée de ce qu'on renvoie. Moi, en fait, c'est un peu particulier parce que j'ai pas de relation amoureuse. Je sais pas si c'est un choix ou un non-choix, mais en tout cas, c'est comme ça. Et en fait, ça dure depuis beaucoup de temps. Et en même temps, j'ai un enfant. Et j'ai l'impression que pour l'extérieur, en tout cas au sein de mon boulot, le fait que j'ai un enfant, c'est ma bouée, en fait, pour eux. En fait, à un moment donné, dans leur paysage, j'ai été hétéro. Oui, et ça rassure. Et en même temps, moi, ça me met en colère parce que j'ai l'impression que qu'on veut toujours me positionner par rapport à quelque chose et j'ai pas envie d'exister comme ça. Et j'ai pas non plus envie d'exister dans le regard de mes collègues avec des alliances ou du ressenti ou de l'expérience commune de mère parce que j'estime que aussi le fait d'être mère, c'est intime et que j'ai pas envie de partager ça avec mes collègues et que ce que je partage ou mon expérience de mère avec mon fils, c'est encore autre chose, enfin, que j'ai pas envie d'exposer en fait dans la sphère professionnelle. Et comme ça leur échappe, je sens que ça fait peur et ça, c'est très troublant à expérimenter de pas participer à... Enfin, qu'on puisse pas me positionner quelque part. Et en même temps, j'en tire de la force et de la faiblesse. Enfin, c'est un peu bizarre. Voilà.
Moi, ça me parle dans le sens où j'ai l'impression que ces normes, elles existent parce qu'on a peu de créativité pour faire vivre le besoin d'appartenance. Et que on a toutes et tous besoin d'appartenir. Et en même temps, en l'occurrence, nous ici et beaucoup de monde se sent vraiment enfermé par ces normes et ne les rejette, se sent mutilé parfois par ces normes. Enfin, vraiment, on a l'impression, quand je dis mutilé, c'est qu'on est obligé de gommer ou d'invisibiliser des parties de soi. Et ça, c'est douloureux. Donc, c'est tout à fait, je comprends vraiment. Et chez moi et chez les autres, l'envie de rejeter la norme. Et en même temps, de ne pas tout jeter, parce que je pense que le besoin d'appartenance, il est hyper fort. Et qu'on confond les deux. Et qu'on aurait intérêt, justement, pour sortir de cette action réductrice de l'hétéronorme, à vraiment voir ce qui correspond à une envie, un besoin d'appartenance qui est joyeux, qui est, voilà, qu'est-ce qu'on vit ensemble en tant que communauté humaine, et ces normes. Et que malheureusement, c'était trop imbriqué. Je ne sais pas si ça vous parle.
Oui, moi, ce que vous dites là, ça me fait vraiment penser à cette puissance de la norme par rapport au fait que, en tant que femme, ou identifiée comme telle, on attend de nous le travail reproductif. Donc, si on est mère, comme tu disais, ça rassure, c'est bon, t'as fait le job, t'as fait ce qu'on attendait de toi en tant que femme. Quand tu le fais pas, et en fait, il faut se rendre compte, je sais pas si les personnes qui ont des enfants se rendent compte de ça, mais le temps de discussion alloué aux enfants dans les conversations amicales, professionnelles, à quel point c'est présent. Alors moi, j'aime bien les enfants, j'habite avec une enfant qui n'est pas la mienne, mais qu'est-ce que ça veut dire la mienne ? Bref, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai conduite. Et du coup, je peux ramener cette expérience-là, ou mon expérience avec des neveux et des nièces. Mais en fait, le temps que ça prend, et je pense que ça fait partie de l'hétéronorme dans la cellule familiale nucléaire, même si je ne sais pas quelle est la sexualité de toutes les personnes qui sont en train de parler dans ces espaces-là, mais quand même, c'est ça la puissance pour moi de la norme, c'est que en fait, moi, il y a plein de fois où je ne peux juste pas participer à la discussion, ou alors il faut que je ramène, que je convoque des expériences d'ailleurs, pour pouvoir un peu me mêler à la petite conversation du déjeuner, quoi. Et en fait, ou alors il faudrait que je dise, moi, avec ma copine, nanana, mais j'ai pas forcément envie de poser ça là. Enfin, voilà, c'est ça pour moi la puissance de ce truc-là, quoi.
C'est ça, et moi, quand je t'entends, je vois vraiment cette impasse de comment je peux participer aux discussions et donc appartenir au groupe et passer des bons moments, des échanges profonds, sans être renvoyée à normalité, quoi. Et c'est compliqué, justement.
Ouais, moi je voulais juste dire un truc par rapport à ça, c'était aussi, je pense que la puissance de la norme, elle se manifeste aussi dans, déjà le fait que c'est compliqué de le dire et qu'on ait du mal à dire, par exemple, je suis lesbienne ou dans des milieux professionnels, par exemple. C'est aussi un truc de, en fait, si on dit ça, on a l'impression qu'on dit un truc de l'ordre de l'intime. Et alors toi, quand tu disais, quand moi je parle du fait d'être mère, c'est quelque chose d'intime et tout. J'ai l'impression que pour la plupart des gens, c'est pas le cas. Enfin, que la plupart des gens pensent que c'est tout à fait normal de parler de ça et tout. Mais par contre, que le fait de dire « je suis lesbienne » ou d'autres trucs, on va te renvoyer à « en fait, tu nous livres un truc intime, on n'a pas envie de savoir, c'est ta vie privée, à la limite, on s'en fout, mais en tout cas, c'est pas un lieu pour parler de ça. » Alors qu'en fait, quand on est hétéro, on se pose pas cette question et que tout paraît normal et on peut en parler librement et il n'y a pas de question de c'est de l'ordre de l'intime ou de choses dont on peut parler en milieu professionnel, par exemple, quoi.
Moi, par rapport à ça, ça me fait aussi penser un peu ce que tu dis, Claudia. Ça fait vachement écho à des trucs que je ressens de façon confuse et que j'arrive pas trop à nommer. C'est que je sens qu'avec les trucs de... Alors, je vais être un peu... sûrement caricatural, mais qu'avec les trucs de mariage pour tous, en fait, il y a certaines d'entre nous, les gouines ou les non-hétéros, qui deviennent respectables et qui, en fait, sont intégrées à l'hétéronorme sans être hétérosexuelles et donc, en fait, peuvent jouer le jeu de la représentation du couple, de la représentation des enfants. Et je trouve ça hyper... Enfin, moi, ça me fait vachement penser qu'on puisse être mère sans avoir envie d'être mère respectable, quoi. Enfin, sans avoir envie d'en faire un moyen de discussion. Et moi, dans ma vie de Gwyn et en ayant travaillé à plusieurs endroits et en ayant changé de statut, c'est clair que la question d'être célibataire et du coup d'avoir des expériences variées, pas toutes glorieuses, mais pas toutes pas glorieuses, pas plus en fait que dans mes couples, ça m'a fait vachement bouger par rapport à ça. Et du coup, j'ai eu à assumer d'être lesbienne et sans être respectable, quoi. Et c'est carrément plus compliqué. Et c'est, enfin voilà. Et ça pose beaucoup de questions sur... Enfin, est-ce qu'on arrête d'être lesbienne si on n'a pas de partenaire, par exemple ? Est-ce qu'on devient totalement invisible ? Et si on ne le devient pas, est-ce qu'on devient totalement inconvenant ? Et en fait, j'ai eu l'impression qu'à un moment, n'ayant pas de partenaire, je sortais du groupe les lesbiennes qui pouvaient être identifiées et je rentrais dans un autre groupe qui existe aussi et qui est les femmes seules. Et alors elles, en gros, ce qu'on leur propose, c'est on les plaint, on leur souhaite autre chose, à la limite, on les aide, enfin... Et c'est vraiment une place merdique, quoi, femme seule, je trouve. Enfin, il y a un truc sur la réappropriation de la place, quoi.
Et du coup, ça pose la question de l'outing, un peu, tout ce qu'on dit là, dans quelle mesure, on s'out et sur quoi et pourquoi et avec qui ? Est-ce qu'avec les collègues, on s'out à la pause café ? Est-ce qu'on s'out auprès des élèves avec lesquels on travaille pour, pouvoir, je sais pas, enfin que eux ils sachent qui on est et de quelle place on parle quand on passe beaucoup de temps avec ou avec des personnes auprès de qui on intervient. Et du coup, quel est le sens de ça? Et en même temps, si on le fait pas, du coup, on participe aussi de cette hétéronormativité, puisque de fait, on va, si on n'a pas fait cet outing-là, on va
être supposé
hétéra, quoi. Donc, du coup, c'est... En fait, ne pas s'outer, c'est être, rejoindre cette hétéronormativité-là. Et en même temps, s'outer, c'est, comme tu disais, genre, oui, ça relève de la sphère intime, mais du coup, comment on existe entre ces deux pôles-là, quoi.
Moi, je disais pas que ça relève forcément de la sphère intime, mais je dis que c'est ce qui est renvoyé aux personnes non-hétéro, quoi.
Et je le vois d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai toujours parlé de mes histoires amoureuses avec mes enfants. Et ça fait deux fois qu'on relève, parce que je parle d'histoires avec des femmes, qu'on me renvoie, oui mais ça c'est ton intimité. Chose qu'on ne faisait jamais quand je parlais d'histoires avec des hommes. Et j'ai trouvé ça manifeste, vraiment. Pas de la part de mes enfants qui le prennent tout à fait de manière ouverte et pour le coup normale, enfin organique, normal dans le sens d'organique. Naturel. Ouais. Mais par contre, ça, j'étais choquée de voir qu'il y avait une résistance, voire. Enfin, comme si j'étais impudique de parler de mes relations avec des femmes à mes enfants. Et jamais j'aurais eu cette réflexion. Ça paraît totalement banal et normal que je leur parle de mes relations avec des hommes. Quoi.
Et je crois que, en préparant l'émission, on parlait de ça aussi. C'est la question de la sexualisation de quand on est lesbienne. Là, on disait intime depuis tout à l'heure. Mais en fait, c'est la question que. Quand on ramène à la machine à café avec tes enfants ou ailleurs, le fait d'avoir des relations avec des femmes, c'est directement sexualisé. Mmh. Alors encore plus quand il s'agit d'hommes, de relations entre hommes. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc-là que c'est pas, c'est ça, c'est la question de la pudeur, quoi. Mmh. Comme si nous on amenait un truc pas partageable,
très gênant, quoi.
Gênant ou en tout cas un truc qui est pas juste. En fait, je partage ma vie avec une compagne et du coup, bah voilà, on est parti en week-end, on a fait ci, on a fait ça, comme n'importe qui, quoi. Mmh. Et des fois, on est prête à faire ça. À l'amener pour justement bousculer la norme. Mmh. Et des fois, en fait, on n'a pas envie de s'insécuriser dans les relations avec les gens, parce que pour X ou Y raison. Et du coup, on ne le fait pas. Mais alors, du coup, on est juste tu et invisible, quoi.
Ouais. Moi, peut-être aussi sur la question de la norme, là, ce que tu dis sur la sexualisation, ça me renvoie au fait que moi, c'est quelque chose qui n'était pas clair du tout pour moi. C'est-à-dire, il y a eu des moments où je ne me suis pas outée, alors qu'en général, je suis out un peu tout le temps, quoi. Ça ne se pose pas trop. Notamment quand j'intervenais dans des classes avec des enfants, où là, je ne l'ai pas du tout dit. Et cet été, quand on a fait les rencontres pédagogiques et qu'on a parlé de ça, je me suis dit, en fait, c'est parce que quelque part dans ma tête, ça fait un lien avec le sexe. Et qu'en fait, je ne parle pas de sexe quand je suis dans une classe. Et ça m'a vachement bousculée. Et du coup, ça m'a vachement bousculée parce que je n'avais pas du tout fait ce lien. Et que je l'ai fait en switchant direct à l'agression sexuelle, quoi. C'est-à-dire, le lien qu'il y avait dans ma tête, en fait, c'était si je fais ça, je les agresse. Alors que je ne l'avais pas nommé. Du coup, ça m'a fait hyper réfléchir. C'est un truc qui m'a bousculé là tous ces derniers mois. Et je me dis qu'une des questions de l'hétéronorme, c'est aussi qu'on la trimballe avec nous, même quand on vit des vies de lesbiennes et que, enfin voilà, qu'elle se met dans des toutes petites niches et qu'on la vit pour soi-même. Donc il y a des endroits où on se censure et aussi on la plaque sur les autres. Et on a pas mal parlé dans la préparation de comment on présuppose pas l'hétérosexualité des unes et des autres qui nous entourent. Et je pense que ça, c'est un. Ouais, c'est un grand sujet à la fois avec les personnes avec qui on a des relations pédagogiques, quoi, les élèves, les étudiants ou les personnes qui participent aux formations où on bosse, mais aussi avec nos collègues en fait. Et j'ai l'impression que tant qu'on fait ça, on ne peut pas avoir d'alliés, on ne voit pas les autres qui sont avec nous. Enfin, voilà. Ça me pose question, moi, comment on la trimballe et comment on la plaque du coup sur les autres, quoi.
Oui, comment on la reproduit aussi en fait du coup.
Ben, je crois que c'est un peu comme le sexisme, en fait. On est tous et toutes des agents du sexisme, et on est tous et toutes des agents de l'hétéronorme, même si on est lesbienne, en fait. Et même d'homophobie intériorisée, et qu'on va plaquer sur des autres. Effectivement, on pourrait se dire, je plaque moi de l'hétéronorme, et que je pense que cette personne est hétéro par défaut, comment je peux attendre qu'elle fasse pas ça avec moi, ou lui fasse pas ça avec moi? Enfin, c'est un peu... Il y a un truc de cohérence, quoi. Mais en fait, on est pétri de ça, on trimballe ça avec nous, comme tu disais, Violette, et du coup, ben, ouais, on l'agit autant.
Et en même temps, même si évidemment, comme vous l'avez dit, ça dépasse la question de l'orientation sexuelle, parce que quand on se out, par exemple, on ne parle pas de sexualité, on parle de plein d'autres choses, de mode de vie, enfin de notre réalité. Je voudrais revenir à cette question quand même, parce que, enfin, moi je le vois avec les groupes d'enseignants que j'anime, ou avec mes enfants, avec leurs amis, qu'il y a vraiment cette homophobie ambiante dans les éléments de langage, dans l'hétéronormativité qui n'est pas forcément, enfin qui entraîne l'homophobie en fait, qui induit de l'homophobie. Enfin, je ne sais pas quelle est la cause, quelle est la conséquence, mais c'est très lié. Je suis triste, en fait, de voir tout ce qui n'a pas pu être permis à cause de cette hétéronorme en action, chez moi, chez d'autres. Ce que j'essaye de permettre, justement, dans les groupes que j'accompagne ou avec mes enfants, mais que c'est des gros deuils, des gros gâchis, et c'est vrai qu'il y a de quoi être vénère quand on se penche sur ça et qu'on... On voit les conséquences.
On se rend compte.
Ouais.
Que c'est aussi dans plein de tout petits moments, que c'est un peu tout le temps, c'est vraiment ce truc que c'est omniprésent et que du coup c'est dans plein de phrases, dans aussi, je sais pas, des mini bouts de phrases qui ont pu être prononcées, moi je pense, dans mon enfance, quoi, aussi, des trucs qui restent marquants, du type oh là là, ça doit pas être facile pour des parents. Quand même d'avoir un enfant comme ça, et quand ça vient de nos propres parents, ça paraît une phrase anodine, mais en fait elle reste marquante, ou je sais pas, tout un tas de moments comme ça où en fait chaque moment participe de cette hétéronorme là et fait que du coup on se construit parfois avec peu de modèles, parfois avec des modèles, et en tout cas avec plein de petites phrases qui viennent s'immiscer et construire cette norme tout autour, quoi, en se disant « Ah oui, là, quand j'avais 6 ans, on m'a dit ça, et du coup, c'est resté ancré, enfin voilà, comme un truc... »
Qui nous rappelle à l'ordre.
Voilà, et aussi, je repensais aux questions d'assignation de genre, mm-hmm. où ça aussi, je trouve que ça participe à ça, à cette hétéronorme-là, et au fait de toujours être réassigné à ce qu'on va projeter sur nous. Enfin, moi, à plein de moments, je note de plus en plus, ou je sais pas, ça m'apparaît plus ces derniers temps, le fait que systématiquement, on dise bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mesdames, ah pardon, je me suis trompée, ah. Enfin, comme s'il fallait absolument préciser le genre de la personne, et je me dis, mais... En fait, c'est bon, peut-être on peut vivre nos existences comme, je sais pas, des êtres humains où on n'est pas obligé de nous mettre là, dans telle et telle case qui vient reproduire. Alors, parce que s'il y a un monsieur et une madame ensemble, alors on est content et on est rassuré, on a passé une bonne journée. Enfin, voilà, je sais pas, ça m'interroge, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que l'hétéronorme, elle agit pas seulement sur la question de l'orientation sexuelle, mais aussi sur comment on renvoie tout le temps les gens à leur identité de genre supposée et que comment du coup ça conditionne bah ce qu'ils vont devenir et leur comportement parce que enfin ouais on a ce cadre là qui est figé quoi un peu.
Moi ça me fait penser aussi que ce que tu dis là sur le fait qu'on y renvoie tout le temps et on y renvoie d'autant plus qu'on est dans un cadre pédagogique notamment avec des enfants. Et qu'on est perçu comme femme, donc on convoque chez nous des compétences qui seraient nos compétences naturelles de femme. On tirerait notre légitimité de notre travail reproductif à la maison, quoi. Et donc si on assume de pas être à cette place-là, du coup on pose problème, enfin en tout cas ça crée un trouble. Et je me dis aussi que c'est clé cette question de l'hétéronormativité, parce que d'une part pour pouvoir s'occuper d'enfants, il faudrait être mère. Mais aussi, ces enfants, ils devraient tous être hétéros. Et quand on a préparé, quand on avait fait l'atelier cet été, on avait parlé pas mal du texte de Paul Preciado sur qui s'occupera de l'enfant queer ou qui sauvera l'enfant queer, où il raconte du coup sa vie d'enfant queer, ce que ça a fait à ses parents aussi, qui déroge à cette règle de genre, à cette norme de genre et à cette hétéronormativité hyper forte dans l'Espagne franquiste. Et aussi ce que ça fait quand elle est bousculée à une échelle sociale plus globale, notamment la question du mariage pour tous et toutes en Espagne. Et comment aussi pour les parents, c'est libérateur de pouvoir faire face au fait que leur enfant n'est pas à sa place assignée dans la norme de genre et dans l'hétéronorme, et qu'en fait, ils ne sont pas fautifs en tant que parents. Et je trouve que cette question-là, c'est aussi ce qui fait que c'est intéressant de lier hétéronormativité et pédagogie, quoi. Puisqu'en fait, ces enfants qui sont face à nous, et ces adultes et ces jeunes, ils sont pas tous hétéros.
Moi, ce que ça me fait, là, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que je crois qu'il y a de la tristesse et de la colère par rapport à, encore une fois, devoir expliquer l'ampleur du problème, quoi. J'ai l'impression que pour nous, en tout cas moi, en tant que lesbienne, c'est au quotidien, ce truc-là. On l'a dit hein, depuis le début, que ça s'immisce dans plein d'interstices, dans plein d'endroits, dans plein de choses qu'on voit ou qu'on voit pas, qu'on dit ou qu'on ne dit pas. Enfin, pour moi, c'est hyper présent tout le temps, l'hétéronorme. Et pourtant, quand je discute avec des personnes, parce qu'elles sont hétérosexuelles, parce qu'elles sont en couple, parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles sont dans une famille nucléaire, dans une maison ou un appartement, enfin bref, avec tout ce que ça implique... Eh ben, il faut que je sais pas comment. Ça paraît disproportionné la colère que je ressens, mais comme en tant que féministe, on paraît toujours, c'est toujours trop, alors qu'on a envie de dire, mais tu te rends même pas compte de l'ampleur des dégâts que ça fait sur nous. Et Mathilde, tu parlais de deuil et de blessures, et moi je crois qu'en fait c'est colossal, quoi. Ça brise des identités, des existences, et en fait, il y a des fois, j'aurais envie de secouer les personnes, de leur dire, mais tu te rends pas compte à quel point c'est puissant, et à quel point, moi, toute la journée, je me la prends en pleine gueule, cette hétéronorme, et comment ça handicapé ou inhibé des trucs de moi, de ce que je me sens capable de faire ou pas dans le monde, enfin, même juste de circuler dans le monde dans lequel on est, et encore plus d'avoir une position de où je dois être devant un groupe d'adultes ou de jeunes, enfin bref. Du coup, voilà, ça me fait un peu ça.
Ouais, moi, je rejoins carrément ta colère, Céline, et en même temps, je vis de la joie justement à d'autres moments, et c'est complémentaire, je pense, quand justement j'ai de la clarté sur « Ah, mais c'est pour ça que je me faisais autant chier dans plein d'endroits. » Et je passais beaucoup de temps à juger les autres, ou encore plus à me juger, de ne pas être comme il faut, de ne pas savoir, d'être anormal. Mais je ne savais pas pourquoi, en fait. Et depuis que j'ai cette grille de lecture de l'hétéronormativité, ben, ça me donne beaucoup d'empathie, en fait, sur mon ennui.
On arrive un peu à la fin de cette première partie. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez aborder avant qu'on arrête ?
Non, ben, j'ai hâte de voir quel ressort, quel recours on va pouvoir inventer. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup question de, aussi pour sortir de tout ça, de quels imaginaires on peut créer et vers où on va. Et du coup, je suis curieuse de la suite. J'espère que les auditeurs, auditrices aussi. Et du coup, on va pouvoir brosser ça dans les épisodes à venir.
Peut-être pour juste un petit mot avant de finir, je me dis qu'en fait, quelque chose qu'on n'a pas dit et qui est hyper important, c'est que l'hétéronormativité, quand on est lesbienne, on y est rappelé tout le temps. Mais en fait, quand on est hétéro aussi, et que cette question d'inclure les lesbiennes, les non-hétéras et toutes les formes plurielles de rapport à l'hétérosexualité possible dans une perspective féministe qui englobe tout le monde, en fait, ça libère tout le monde et ça fait avancer toutes les femmes en mettant un peu d'air là, dans cette grille hétéronormative et en fait patriarcale.
En résumé.
Non, mais quand même, pour ça...
on n'avait pas placé patriarcat quand même depuis le début de l'émission, c'était chaud.
Toutes les femmes et les gwynes et les lesbiennes, enfin, et les personnes assignées femmes à la naissance ou pas et qui se reconnaissent.
Yes. Et du coup, on écoute de la musique ?
Allez.
On se quitte en musique. Bonne écoute.
Hey, old school. Aquí llegó la escuela del futuro. Agárrate, que hoy voy a darte. Si tú eres bien bow, bien bow.